La Maison pour la Science, au service des professeurs du Nord-Pas-de-Calais, s'ouvre actuellement et se densifiera ses actions à partir du mois de septembre, la rentrée scolaire. On va parler de cette maison donc avec son directeur qui s'appelle Monsieur Francis Meillier. Bonjour Monsieur Meillier.
Bonjour.
Donc on va dire que c'est une nouveauté, mais le fruit d'un, sûrement d'un long combat.
La démarche elle-même est à aller chercher dans l'initiative de Georges Charpak lorsqu'il a débouché lui-même sur la fondation de la main à la pâte et qui a suscité des initiatives locales pour essayer de mettre à jour une méthode d'investigation pour modifier l'enseignement des sciences et donner l'envie aux enseignants, aux professeurs et aux élèves, à leurs élèves, de s'intéresser aux sciences.
Georges Charpak, donc 1924-2010,
hein, oui.
Qui a œuvré, on va dire, tout au long de sa vie à vulgariser les sciences.
Alors c'est un immigré, faut le dire, faut le rappeler, parce que il s'est estimé redevable de ce que la France lui avait donné, l'école républicaine lui avait apporté, et c'est comme ça qu'il a voulu derrière faire profiter le plus de jeunes possible des possibilités que lui donnait l'enseignement public.
Donc, on peut dire que le concept de la main à la pâte est né, enfin, en France, on l'a vu vivre à partir des années 70, pratiquement, 80.
Alors, oui, c'est le concept, ce qu'on appelle méthode d'investigation, c'est déjà connu depuis pas mal de temps. Charpak l'a vu à l'œuvre en Amérique du Nord de façon importante. Moi, qui ai eu l'occasion de passer un an aussi dans l'Ouest canadien, je l'ai vu à l'œuvre également. Et Charpak, lui, s'appuyant sur son renom, a décidé d'en créer une méthode et de la développer, de la répandre avec l'éducation nationale. Et là, le lien s'est fait avec l'éducation nationale.
Oui, parce qu'au départ, l'action de Charpak pouvait s'exercer au travers d'associations. D'ailleurs, il y a peut-être encore une association La Main à la Pâte.
Elle existe toujours. Cette association fonctionne toujours. Elle est en appui technique à l'initiative de l'Académie des sciences, parce que l'opération des maisons pour la science au service des professeurs, c'est une initiative de l'Académie des sciences qui a voulu donner à cette méthode une dimension territoriale et donc organiser un réseau. Et dans le cadre c'est Michel Rocard qui a pensé à faire le lien quand il s'est retrouvé en responsabilité avec Alain Juppé de la gestion des plans d'investissement d'avenir. Et il a proposé à l'Académie des sciences de créer quelque chose en s'appuyant sur l'expérience de Charpak.
Voilà donc une initiative d'éducation populaire au départ qui, on va dire, est réinvestie dans l'éducation nationale.
Tout à fait. Là, on voit une excellente complémentarité entre le monde de l'éducation nationale qui a accepté de s'exposer, de prendre des risques et de tenter de l'innovation, et le monde associatif qui, là, est par définition quelque chose qui peut émerger un petit peu partout, de façon un peu spontanée.
Alors c'est vrai, c'est vrai que Francis Meillier, les activités de la main à la pâte s'exerçaient, et peut-être encore pendant les vacances par exemple, hein, il y avait des ateliers qui étaient proposés à des jeunes, notamment en partenariat avec des villes autour des centres aérés ou bien d'événements particuliers, des salons, des choses comme ça. Là, le système éducation nationale devient, par rapport à la main à la pâte, un réseau aussi qui va structurer le territoire régional Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il y aura des zones dans lesquelles vont s'implanter des structures donc liées à la Maison pour la Science au service des professeurs du Nord-Pas-de-Calais. Donc on va dire qu'il y aura des bassins formation sur lesquels il y aura donc des structures d'appui.
Alors, pour bien comprendre la logique, il y a eu un premier appel à proposition qui a été lancé par l'Académie des sciences il y a 3 ans, à l'issue duquel 4 régions plus le centre national ont construit quelque chose. Et un deuxième appel à proposition qui a été lancé il y a 2 ans. Et le Nord-Pas-de-Calais a répondu dans ce deuxième appel. La condition, c'est que ce soit porté par un établissement, par une université, par un établissement universitaire. Et université reconnue comme scientifique. Donc ici, dans la région, c'était Lille-1 qui avait été contacté par l'Académie des sciences. Et Lille-1 s'est tout de suite positionné au nom de la commu, la communauté des universités et d'établissements. La nouvelle structure, c'est la structure qui remplace le PRESS. Mais ça veut donc dire que c'est l'ensemble de la communauté universitaire qui est derrière. Et dès la rentrée de septembre, c'est pas uniquement des enseignants-chercheurs de Lille-1 qui vont participer, mais il y a également des enseignants-chercheurs au moins de l'ULCO. Et on entreprend des discussions avec les autres universités pour qu'elles participent à l'avenir. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est que les actions ne sont plus destinées ici aux élèves directement, mais aux professeurs. Et donc, il y a un cran supplémentaire, il y a un facteur de démultiplication supplémentaire, et du coup, on peut s'appuyer sur le réseau de l'Académie de Lille. Et le rectorat fait preuve d'une très grande volonté politique pour avancer, pour mettre des moyens. Le rectorat a mis des moyens importants. Il s'est engagé sur 5 ans, ce qui est considérable, avec un peu de moyens humains et un peu de moyens financiers. Et effectivement, nous travaillons avec une volonté forte d'avoir une couverture territoriale qui soit à peu près homogène par rapport à la densité de population. Et donc, on s'appuie sur les structures que le rectorat appelle bassins de formation. Il y en a 9 dans le département du Nord, 5 dans le département du Pas-de-Calais. Et là, nous sommes en mesure, on a démarré au 1er janvier 2014, mais nous sommes en mesure, en travaillant étroitement avec les gens du rectorat, là, nous sommes en mesure de proposer au moins une action par bassin de formation dès la rentrée prochaine.
Donc, quand on dit une action, est-ce que ces actions peuvent être différenciées d'un bassin à l'autre ?
Oui, tout à fait. Et puis, une même action, les enseignants-chercheurs, les laboratoires qui sont derrière, qui travaillent avec les représentants du rectorat. Les représentants du rectorat, il y a des inspecteurs, mais il y a aussi des enseignants qui sont formés pour ça et qui servent d'intermédiaires. Et le rectorat a mis à disposition 3 personnes pour un ensemble équivalent à un temps complet. L'université Lille-1 aussi, elle a mis 2 personnes pour l'instant sur l'équivalent d'un temps complet également. Et donc, le travail qui a été fait, c'est de définir des actions qui se font sur 2 journées, pas nécessairement consécutives, et qui pourraient être déclinées, qui sont précisées sur un lieu, mais qui pourraient être déclinées sur des lieux différents. Certaines d'entre elles peuvent être tout à fait transposables pour, de façon à développer un travail de proximité avec les établissements scolaires.
On peut aussi imaginer des actions plus fines, adaptées à un territoire bien particulier qui a des spécificités.
Tout à fait. Par exemple, on va essayer de s'appuyer sur des fiches qui concernent le textile auprès des zones qui se sont beaucoup investies sur le textile. On va développer sur le littoral des choses qui sont en lien avec les activités littorales ou les situations, l'environnement littoral, etc.
Donc on va dire qu'il y a une méthodologie que l'on retrouvera, mais des sujets, des thématiques qui seront un peu inspirés par les ressources locales.
Alors, dans cette première phase, on a les idées ont émané des laboratoires en grande partie, parce que c'est clair qu'il faut s'appuyer sur les laboratoires, sur les enseignants-chercheurs. Et le travail consiste à faire travailler de façon, je ne vais pas dire quotidienne quand même, mais régulière, le monde de l'éducation nationale, qui a ses structures et ses méthodes bien spécifiques, avec le monde des enseignants-chercheurs, pour arriver à faire des propositions sur lesquelles on va regrouper les gens et qui vont être justement qu'on va pouvoir adapter. Une caractéristique aussi, une spécificité, et apparemment le Nord-Pas-de-Calais, comparé aux 8 autres maisons, le Nord-Pas-de-Calais est bien parti pour l'assurer, c'est qu'on va réussir à associer dans une circonscription des professeurs des écoles primaires, donc, avec un ou des professeurs du collège auquel ces écoles sont rattachées, de façon à ce qu'il y ait une approche cohérente, une mise en cohérence des méthodes d'enseignement.
Favoriser la transition entre l'école primaire et le collège, c'est ça, hein ?
Une des cibles majeures du rectorat, certes, mais également au niveau national, c'est d'arriver à dissoudre un peu cette paroi étanche pédagogique qui sépare le monde de l'école du monde du collège.
Nous sommes toujours avec M. Francis Meillet, directeur de la Maison pour la Science au service des professeurs du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, on est avant les vacances, mais vous préparez la rentrée, bien évidemment.
Alors, il y a actuellement une quinzaine d'actions qui sont définies sur leurs principes. On est en train actuellement de réaliser la phase opérationnelle, bien définir la réalisation, la mise en œuvre opérationnelle. Et il y a donc des gens des laboratoires, il y a des profs du secondaire et du primaire, et on essaye aussi d'associer, tant que faire se peut, quelqu'un du monde socio-économique, que ce soit une entreprise, que ce soit une collectivité, que ce soit une association, mais qui donne un lien direct avec la société civile. Donc là, effectivement, on est au travail pour ça.
Donc vous avez au départ des personnes ressources déjà du fait que l'université a des liens avec ces milieux ?
Oui, c'est un des intérêts du travail, et notamment au niveau du presse ou de la commu. Il y a une mutualisation des réflexions, pas seulement des moyens, mais des réflexions également et des projets. Par exemple, tout le réseau des centres de culture scientifique et technique, dont la tête de réseau est le Forum des sciences ici à Villeneuve-d'Ascq, eh bien tout derrière, c'est l'ensemble du réseau qui est mobilisé. Et que ce soit qu'il s'agisse du plus à Capelle-la-Grande à côté de Dunkerque, ou de la Coupole à Saint-Omer, ou d'autres lieux comme ça aussi, le centre historique minier de Leuwarde et d'autres centres, tous sont mobilisables et certains sont déjà mobilisés pour des actions.
Donc vous avez cité des structures qui sont dans le territoire Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a encore des zones ombres dans ce territoire, et éventuellement, est-ce que votre dispositif amène un relatif équilibre ?
Alors, ça, c'est un but, c'est un chantier important. Alors évidemment, ça ne sera pas pour la rentrée de 2014, parce que c'est un chantier qu'on construit, mais des contacts ont déjà été pris. Spécifiquement en direction de deux zones qui sont loin justement des centres scientifiques, des centres de culture scientifique actuellement. On va créer ce qu'on appelle un centre satellite du côté dans la région de Fourmies, dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup d'équipements. En dehors de l'écomusée de Fourmies, il n'y a pas beaucoup d'équipements. Mais en revanche, il y a une volonté très forte déjà des établissements scolaires qui sont là sur place. Donc il y a une demande là. Et puis l'autre centre satellite que l'on souhaite mettre en place, c'est du côté du sud-ouest de la région, plutôt dans la région du Montreuil, Étaples, le Berck, le sud du Boulonnais, où là, il n'y a pas beaucoup d'équipement non plus dans ce domaine-là. Là, pour l'instant, on cherche des interlocuteurs.
Donc on a bien compris ce rôle d'aménagement du territoire. Est-ce que justement dans le cadre par exemple d'un plan État-région, il est financé, finançable, sur combien d'années? Comment vous voyez les choses?
Alors jusqu'à présent, le plan d'investissement d'avenir nous donne via l'Académie des sciences la moitié du financement sur 5 ans. Donc on a une visibilité sur 5 ans. Évidemment, il faut qu'on trouve en face l'autre moitié. L'autre moitié est en partie couverte par les personnes mises à disposition. Donc actuellement, j'ai cité évidemment l'université Lille-1 et puis le rectorat. Les autres établissements universitaires, on espère que ce soit directement ou via la commu, se décide à en mettre à disposition également. Et puis, il y a le CNRS qui a déjà mis la main au porte-monnaie cette fois pour nous permettre de démarrer, mais avec qui on négocie la possibilité peut-être d'une mise à disposition. Et il y a le conseil régional qui, a priori, a vocation à s'occuper des lycées, mais au titre de la politique de développement territorial, AXE, et puis de l'égalité des chances, parce qu'on travaille quand même, c'est un des thèmes fondamentaux de la main à la pâte, a accepté de mettre la main au porte-monnaie aussi pour démarrer.
Voilà, donc effectivement, il y a à la fois la main à la pâte, mais il y a aussi la main au portefeuille, c'est important.
Et il y a les deux conventions fondatrices, la convention entre Lille-1 et l'Académie des sciences d'une part, la convention entre Lille-1 et le rectorat d'autre part, ces deux conventions ont donné lieu à une signature ce jeudi dernier, 12 juin. Ça n'a pas été énormément médiatisé pour l'instant parce qu'il fallait faire vite. Ça nous permet de démarrer administrativement. Et à l'automne, on essaiera de faire une cérémonie un petit peu plus médiatique pour mieux faire connaître l'action.
Alors, on sait les besoins du monde scientifique, d'une manière générale, à recruter des gens passionnés, des jeunes passionnés qui vont s'inscrire dans des programmes justement de formation dans les universités, par exemple. Est-ce que pour une université, cet investissement qui est fait par Lille-1 en mettant à disposition des personnes, ça peut rejaillir aussi en termes de notoriété, en termes d'attractivité pour des jeunes qui voudraient faire des études? Est-ce que ça peut avoir un effet à ce niveau?
On l'espère. C'est effectivement de l'investissement à long terme vis-à-vis de ceux sur qui on travaille, mais c'est un investissement aussi d'image pour avoir un effet d'entraînement vis-à-vis des autres qui regardent de tels projets, qui ont envie de s'associer et de défendre de tels projets.
Donc on imagine que du côté de l'ULCO et du côté de l'Artois, ça peut aussi inspirer.
On espère, et du côté de Valenciennes aussi, espère bien trouver des interlocuteurs. Il y a déjà eu des contacts, mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Il faut dire que les universités ont en ce moment le très gros chantier de la préparation du prochain contrat. Donc, on comprend qu'ils n'aient pas forcément du temps à consacrer comme ça, mais c'est le projet, le chantier important qui suit, quoi.
Voilà, donc on a bien vu les enjeux de ce chantier. Il y aura ce démarrage en septembre. En décembre, il va se passer quelque chose aussi?
Oui, alors, sur septembre-octobre, le mode de fonctionnement de l'éducation nationale est tel que les actions qui vont principalement concerner les professeurs des écoles, c'est surtout en septembre-octobre qu'on peut les faire. Donc là, actuellement, on se bat pour que ça soit au point pour ça. Et les actions qui concernent les professeurs des collèges, elle passe par ce qu'on appelle le plan académique de formation. Et là, généralement, elles se font sur le deuxième semestre, et donc de janvier jusqu'à mai à peu près. Et donc, on aura un décalage, ce qui nous va nous permettre d'avoir un petit peu un retour, d'améliorer et puis d'élargir. Pour l'instant, on démarre avec ce qu'a financé le rectorat, c'est-à-dire 800 jours, l'équivalent de 800 jours de formation. Et dans un an, on doit passer à la phase plateau qui sera de 1200 jours par an.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du plan académique de formation, on peut dire que ce sont des propositions de formation qui sont faites au personnel de l'éducation nationale et que ceux-ci peuvent choisir et qu'en fonction de l'intérêt, on a des groupes qui se constituent et qui entrent dans ces formations. Certaines sont abandonnées, qui étaient prévues sur le papier sont abandonnées parce qu'ils n'ont pas forcément l'intérêt et d'autres, au contraire, il y a beaucoup de monde et il faut faire une sélection. Alors, donc il faut que ce soit prêt en décembre déjà.
Voilà, et un enjeu important, c'est que c'est de faire certifier, de faire reconnaître cet effort fait par les personnels qui veulent se former pour le faire entrer dans leur propre validation. Et donc, dans un premier temps, il y a cette certification qu'on va discuter avec les autorités compétentes. Et dans un deuxième temps, on envisage même, ce qui commence à se faire dans d'autres maisons, de véritables parcours professionnels sur une formation étalée sur 3 ans.
Alors on imagine aussi que ces personnes qui seront formées dans ces formations, ces stages, seront aussi des relais importants pour vous.
On l'espère.
Voilà. Mais je crois qu'on a bien compris le dispositif, Monsieur Francis Meillet. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter ?
Que tout le monde comprenne bien sa place et puis travaille à construire, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est construit par les gens eux-mêmes et qui est élaboré par les gens eux-mêmes, et que donc chacun fasse bien l'action la plus pertinente au niveau auquel il se trouve.
Voilà, donc la Maison pour la Science au service des professeurs du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a pour l'instant un contact, une page web ou quelque chose qui peut donner un peu l'idée de ce qu'on y fait ?
Il y a le site Maison pour la Science, le site national, qui est tenu par le Centre National. Nous, ici, on doit mettre en place quelque chose au niveau qui sera attaché au site de l'ILA, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait.
Très bien. Bonne journée.
Merci.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Lille Info cède la place à Quoi de Neuf maintenant. Quoi de Neuf, un magazine consacré à l'actualité culturelle régionale, avec deux grands sujets aujourd'hui. Tout d'abord, Panorama 16, c'est la nouvelle édition de cette présentation qui est faite des œuvres des étudiants, des élèves de l'école du Frénois. Eh bien, je vais vous passer un reportage que j'ai réalisé là-bas, au vernissage, la présentation de presse d'ailleurs, de ce beau moment. Enfin, si vous y allez, vous verrez, c'est assez magique. Ensuite, bien 17h30, nous parlons du Festival des Latitudes Contemporaines avec Maria Carmena Mini, sa directrice. Voilà, bonne écoute du 106 FM, www.campusil.com. Dans quelques instants, nous irons donc au Frénois.